Je vais donner la parole à la salle.
Bonjour. Je tiens à vous dire que, en tant que, peut-être punk, c'est un mot un peu péjoratif, c'est ancien punk, mais tout est basé quand même sur une musique. La réussite chez les punks, il y a des gens qui ont besoin d'être appréciés, d'être reconnus. Beaucoup chez les musiciens qui se montrent sur une scène, moi je. Mais il y a aussi les autres artistes. Il en a parlé assez très intelligemment, les graphistes et les peintres. Et puis il y a aussi le public. Donc un punk, c'est quoi? Donc, un punk, pour moi, il a pas mal de boulot. J'ai connu des punks qui bossaient à la RATP, à la SNCF, qui étaient maçons, qui étaient, parce qu'ils étaient punks, peu importe leur boulot, des travaux vraiment ouvriers. Ça ne veut pas dire qu'ils venaient des mouvements ouvriers, mais c'est qu'ils avaient leur job et qu'à bon escient, ils écoutaient du punk et c'est eux qui ont fait le punk. On ne parle que de musiciens. Et les musiciens, ils m'énervent. On en déplaise à M. Talu qui est ici présent dans la salle parce que lui, il n'a pas lâché l'affaire. Il y a des musiciens qui n'ont pas lâché l'affaire parce qu'ils étaient artistes. Il y a des peintres aussi qui sont artistes, j'en ai connu moi-même, qui, toute leur vie, c'est la peinture, par exemple. Des musiciens que M. Talu qui est ici présent. Et puis d'autres ont évolué. M. François, des Béroriers Noirs, qui est au CNRS. Salut Solveig. Et voilà. Donc, je pense que le punk est vraiment disparate. Donc, c'est beaucoup de discours, pas grand-chose de la part de ces messieurs.
Ouais, on demande jusqu'à une question, présent. Michel.
Oui, ma question est alors, pourquoi ce style de colloque punk? Pourquoi la réussite chez le punk? Pourquoi être punk? Pourquoi cette question? C'est ça qui me dérange. La réussite chez le punk de ce colloque aujourd'hui. Il y avait l'ambiance chez les punks, il y avait la différence entre les femmes et les hommes. Chez les punks, il y a plusieurs colloques. Chez le Pind, c'était vachement intéressant. Et là, la réussite chez les punks, c'est quoi? C'est le musicien le plus intelligent qui crée des musiques que tout le monde adhère et que des musiques, le punk musical ou le alors, punk...
Ça commence par pourquoi, donc c'est un début de question. Donc,
c'est ça. Ouais, alors, pourquoi la réussite continue. Chez les punks, mais c'est le punk de la rue ou c'est le punk de la musique?
Je crois qu'on y a tous plus ou moins répondu de manière différente, c'est qu'effectivement, c'est à la fois la réussite de certains groupes sur des carrières, etc. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire des expositions sur les carrières punk, etc. Il y a eu effectivement, moi j'ai parlé plutôt de la réussite d'une communauté à se maintenir, ce qui a un peu fait aussi mon prédécesseur. Il y a eu effectivement cette question de est-ce que réussir dans le punk, c'est sortir de l'anonymat pour devenir célèbre. Enfin, je crois qu'il n'y avait pas une volonté de dire la réussite dans le punk, c'est juste le punk, le musicien qui réussit, mais effectivement, c'est une question qui était complexe et qui méritait d'être posée.
Ouais, je crois aussi, justement, l'intérêt de cette journée, c'était justement aussi pour une fois de s'attaquer à un sujet qui va un peu à l'encontre des fois des préconceptions, puis qui fait réagir. La façon dont tu réagis, c'est la preuve que ça vaut la peine de poser cette question-là. C'est que cette réussite, c'est des fois aussi un tabou de la scène punk, que ce soit. C'est-à-dire que soit on est fidèle, soit on a trahi. Mais ce qu'on a essayé de montrer, à mon avis, les quatre, c'est à quel point la réussite, ça pouvait être ces différentes choses. C'est-à-dire qu'effectivement, la réussite, ça peut être la récupération, ça peut être. Des gens qui finalement se conforment aux exigences de la réussite qui seront critiques dans d'autres sphères, mais pour d'autres, la réussite, ça peut être d'autres choses, comme tu dis, que ça n'est pas du tout lié à qui est le plus malin, le plus intelligent, mais ça peut être aussi, comme l'a montré par exemple Simon ou Christophe, la fidélité à des valeurs qui sont, elles, pour eux, la réussite.
Est-ce qu'on peut, avant que tu répondes, est-ce qu'on peut laisser peut-être éventuellement les deux autres
Oui, non, mais je pense que la notion de réussite, on l'a tous, enfin chacun ici décliné de manière un petit peu transversale, et sans reprendre tous les items parce qu'il y en aurait, beaucoup qui peuvent définir, y compris de manière paradoxale, contradictoire et inattendue, la réussite, jusqu'à parler de la réussite accidentelle ou de la réussite de l'échec, l'échec de la réussite, en ne prenant qu'un seul exemple, qu'un seul référentiel. Par exemple, l'argent, parce que c'est revenu quand même dans plusieurs communications. Est-ce qu'il faut avoir une Rolex, une grosse voiture, etc. Est-ce que le fric est un marqueur de réussite universel? Et est-ce que le punk, dès qu'il produit éventuellement, on va dire, du bénéfice ou de la commercialisation, se trahit lui-même ou autre? Et là, on voit que, par exemple, des disques certaines pochettes que j'ai montrées de disques KO Production, de disques de 77, je parle même pas de la scène Indus et de tous les trucs format A4, là ça c'est redoutable. Ça vaut combien aujourd'hui sur eBay? Le premier Kidnap de 83, qui devait se vendre à mon avis, c'était quoi le prix d'un 45 en 83? 4-5 francs? Je sais pas, il doit coûter combien maintenant? 150 euros j'imagine. Est-ce que ça, c'est une... Et c'est pas une récupération commerciale. Bon là, on rentre dans la notion de collection. Mais la valeur fric, elle s'y met. Maintenant, le mec qui va acheter ça, le collectionneur qui va acheter le 45, et il faudra bien qu'un jour tout change. Est-ce que c'est forcément... Ça peut. Est-ce que c'est forcément un capitaliste du disque, c'est-à-dire qui va thésauriser pour revendre? Possible, il y en a 500 exemplaires, je crois, ou 1000. Il y en a certains, forcément. Est-ce que c'est un amoureux du groupe? Ouais, mais du coup, il est prêt à mettre une somme... qui ne mettrait pas dans une montre, etc.
C'était quand, Solveig, on a fait une réunion rue Boulevard-Espagne, il y a une semaine, c'est ça? Il y avait le type qui avait édité le bouquin Fin de siècle. Et puis, il y avait une meuf à côté de moi qui a maté sur un... Je l'ai maté comme ça, et puis elle a maté sur... Oui, il est introuvable. Moi aussi, je l'ai eu. Ah, t'es là, bravo, merci. C'est un super bouquin. Et tu devrais le rééditer. Et tu disais, ouais, mais le mec, il le volait à la FNAC, et puis il se le volait les uns les autres. Et effectivement, moi, je l'ai eu. On me l'a volé. Et puis la meuf, elle matait sur Le Bon Coin, un truc comme ça. Ouais, il est à 550 euros le bouquin. Est-ce que le type ne l'a pas volé lui-même afin de le revendre 10 ans plus tard?
Quand tu disais que la question qu'on posait te dérangeait, ben j'espère bien qu'elle te dérange, parce que sinon on peut faire un travail, une journée d'études sur l'épingle à nourrice, et ça n'aura aucun intérêt. C'est-à-dire justement, je pense qu'on a tous réfléchi, on a tous accepté de jouer le jeu avec cette journée sur la réussite, puisqu'évidemment... La question était aussi intelligente qu'elle était stupide. C'était pour ça que c'était intéressant pour nous, parce qu'on savait effectivement qu'il y avait quelque chose qui était excessivement polémique, problématique, et que ça allait entrer d'entrée de jeu dans la façon qu'on allait avoir d'y réfléchir. Le but, c'était justement de réfléchir. Réfléchir, c'était passer effectivement par des frictions, par le fait de justement de décortiquer notre sujet.
Michel, je crois qu'il y a en fait quelque chose. Il y a quelque chose qui sous-tend. On n'en parle pas souvent de ce mot, mais avec Luc, on est en train d'essayer de le remobiliser. Le travail, on se rend compte qu'il y a la notion d'authenticité qui est partout. En gros, tout le monde se définit comme qu'est-ce qui est un vrai punk de ce qu'il n'est pas. Alors, quand c'est sur la musique, tu vas avoir des débats du genre. Donc aujourd'hui, c'est pas sur la musique, c'est sur la réussite. Mais le vrai punk, c'est celui qui en 78, celui s'arrête en 78, le punk s'arrête en 78, ça c'est une forme d'authenticité. Tout ce qu'il y a après, ça n'existe plus. Bon, d'autres débats, enfin voilà. La notion de réussite, il me semble d'ailleurs, ça te fait réagir, c'est la première fois que tu réagis fortement comme ça, donc c'est bien la preuve que le titre, l'intitulé de Luc était une bonne idée. Ça vient quand même, comme a dit Pierre, il me semble que c'est un énorme tabou, et y compris quand on fait des entretiens, parce que personne n'aime dire qu'il gagne de l'argent, personne n'aime l'avouer, même si les gens... Enfin, me dis pas que le but d'un musicien, c'est pas de vendre des albums, sinon c'est pas un musicien, si tu veux. Bon. Après, il y a la manière de le faire, il y a la manière de produire tes trucs, de t'autoproduire, d'être intègre avec une philosophie de tout ce que tu veux. Mais je pense qu'aucun chanteur, on verra cet après-midi, t'aimerais jouer tout seul dans une salle vide? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais, si tu veux, si tu restes fixé sur la musique, aucun musicien n'est content de jouer devant, bon, jouer devant un public, c'est une forme de réussite, qu'elle soit monétaire ou pas.
On va pas lancer le débat sur être punk. Nous, on l'a posé, la définition, sur les formes d'autodéfinition, c'est-à-dire ceux qui se revendiquent comme tels, et sur les formes de définition, de catégorisation, c'est-à-dire comment on est catégorisé, défini, étiqueté comme punk. Pour l'instant, on n'a pas mieux à vendre, hein, et on travaille là-dessus. Mais sur la question de la réussite, c'est juste parce que tu as raté l'introduction, Michel, parce qu'on a présenté un petit peu le pourquoi, c'était interroger quelque chose qui n'est jamais interrogé, voire tabou, hein, d'une certaine manière, dans la manière d'être ou de se sentir punk, qui était cet horizon de la réussite, soit personnelle, soit à partir de considérations qui sont liées au marché ou autres, ou au public, etc. Alors moi, j'ai une question à poser à Flavien par rapport à l'exemple que tu prends, qui est très bon, de Caméra Silence. Enfin, c'est plus des remarques que des questions. Parce que d'abord, la remarque, c'est que Il y a eu au moins deux caméras silence et je pense qu'il faut y faire référence parce que le caméra silence de squat, c'est quand même pas le même caméra que quand Gilles est parti et que Benoît refait quelque chose qui est beaucoup plus hybridé musicalement et même dans les textes d'identité, c'est quand même déjà ça c'est pour une marque. Mais moi je me souviens, là c'est souvenir personnel, hein, quand on a quand on rencontre Caméra à l'époque, j'étais en Noir d'Aise, c'est sur un tremplin rock. Hein, devant 900 personnes, et nom de Dieu, je peux te dire que ça a été la bataille. Et pour réussir, hein, il y avait une vraie lutte sur des standards qui étaient les standards de l'époque qu'on connaît toujours, le tremplin rock, la réussite, et à l'horizon, c'était le 45 tours. Caméra, c'était punk de punk. Hein, donc, c'est par rapport à des petits exemples concrets aussi qu'on peut réfléchir à cette question de la réussite. Oui, c'est la question que posait Solveig. Ben oui, on a quand même envie de jouer devant du monde, on a envie d'être écouté, etc. Donc, il y a quand même ce paradoxe toujours de la... Voilà, on est dans l'ombre et dans la lumière. Et voilà. Donc c'était une remarque pour par rapport à l'exemple que tu as choisi. Après, connaissant la trajectoire des musiciens, et en particulier celle de Gilles, et du groupe lui-même, ce que tu évoques est très bon, à mon avis, une forme de réussite. C'est aussi la persévérance et le fait d'avoir duré, de s'être tenu dans le temps, malgré des épisodes. Je pense que ta conclusion est très bonne sur le troisième volet que tu amènes, qui est, au fond, la réussite. C'est aussi la persévérance, la manière de durer dans le temps et d'avancer malgré les obstacles. Alors, Luca disait tout à l'heure, c'était la définition de Winston Churchill, d'avancer dans les épisodes un peu durs, très punk, et exactement c'est ça. Donc c'était plus une série de remarques sur l'exemple que tu choisis, qui à mon avis est très bon, et de manière assez paradoxale.
J'ai l'impression qu'il y a une cassure à un moment, c'est-à-dire que si tu prends la première vague des groupes punk, français, américains ou anglais, tu as une sorte de communauté d'entraide, ils se filent la sono, etc. Et que cette notion de jalousie par rapport au succès, va intervenir plutôt dans les années 80. Est-ce que ça a été une piste que tu as... Parce que si tu veux, au début, festival, ils sont tous ensemble, ils sont super contents quand le copain il passe à la télé, il passe en radio, il sort un disque, etc. Et le truc de jalousie propre à la scène, à mon avis, va intervenir... Alors j'ai une théorie personnelle, c'est après le succès de Plastic Bertrand, mais ça c'est autre chose. J'ai l'impression que ça intervient plus dans les années 80. Et aussi le truc de label indépendant, de label de pense aux grands groupes, ils ont tous sorti des disques sur les grands labels, surtout aux États-Unis. T'as pas les Ramones, je sais pas, ils étaient sur Sire, Patti Smith. Il y a qu'en France, en France en 1917-1918, il y a pas vraiment de label indépendant, si tu veux. Tu vois, c'est plus des associations. T'as pas un label indépendant. Alors, Jean-Pierre Turmel, c'est génial, hein, l'histoire, mais c'est un peu en parallèle, en fait. Hein, si tu veux. Les labels indépendants, KO en France, j'ai pas les noms en tête, mais j'ai l'impression qu'ils apparaissent un tout petit peu après. Donc, quand tu fais un dessin comme ça, que... Pardon ?
Le rôle, quand même, des compiles à cette époque-là, quand même.
En 77 ? J'en connais pas. Mais si tu en as, j'en... Non, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage. Tu vois, il y a un petit décalage.
Effectivement, c'est pas encore constitué comme des labels. Et là où tu as raison, c'est qu'effectivement, la maîtrise même de la production du disque appartient encore globalement à des grosses maisons.
J'ai l'impression qu'il y a une cassure, si tu veux, fin des années 70, ce que je revenais au début, et que là, il y a la notion de compétition et de jalousie qui intervient. Et peut-être parce que certains ont réussi, et Plastic Bertrand, entre autres. Quoi. Mais est-ce que vous avez eu cette réflexion ou pas du tout? Enfin, je. Les petites pistes. Et puis en plus, il y a un autre grand truc dont on n'a pas du tout parlé, on n'a pas du tout fait de parallèle, c'est les groupes punk américains, Green Day et tout ça, qui vendent par millions. Ça gêne personne. Et en France, on peut penser que les Vampas, à un moment, vont cartonner aussi. C'est-à-dire qu'ils vont être disque d'or avec cet album il y a 15 ans. Ça, c'est une voie que... Voilà. Il y a quand même plein de groupes punk qui ont vendu des millions de disques.
Je pourrais juste... et après ça, tout le monde, après, juste sur deux points, là. Moi, je suis d'Angleterre, et en Angleterre, à l'époque punk, quelque part, tout le monde se détestait. Il n'y avait absolument pas cette camaraderie dont tu parles, que je comprends, qui était valable et un peu plus tard. Mais entre les Clash, Sex Pistols et nous tous, il y avait un genre de snidey entre nous. Mais là-dessus, sur le second point, après ça, je passe le micro aux personnes où le tour est... Et que le fondement au Royaume-Uni, ce n'était pas de se signer sur un label indépendant. ça n'a jamais traversé l'esprit ni du Clash, ni du Sex Pistols, ni de nous tous. Toute l'histoire, c'était rentrer dans la grosse bête et le détrôner de l'intérieur, et le pourrir de l'intérieur. Et tout l'aspect Motorhead dans lequel j'étais, Warsaw Pact dans lequel j'étais, The Clash et nous tous, c'était ça. Et que ça n'a jamais traversé l'esprit des Clash, par exemple, de signer chez un indépendant. Les indépendants étaient là, hein, Rough Trade, etc., vachement bien. Et après ça, plein d'autres groupes ont pu être sortis par ces indépendants, et tout à leur honneur, parce que c'était beaucoup plus difficile d'être indépendant. Mais dans le fondement de tout ce mouvement punk, c'était vraiment pourrir la pomme de l'intérieur. Juste pour... OK.
Non, mais c'est super.
Être punk.
Intéressant.
Mais on va pouvoir...
Mais c'est pas le même système en Angleterre. J'ai l'impression que c'est pas le même système en Angleterre. En Angleterre, c'est déjà un gros système, la musique. Il y a une émission, enfin, je sais pas, c'est pas toi qui va, on va pas te la prendre à toi, mais il y a un rendez-vous à la télé, c'est un gros système la musique. Les jeunes de 14-15 ans, ils consomment la musique depuis les Beatles. En France, la musique populaire pop-rock, dans les 70, elle n'est pas réellement à la télé, elle n'est pas réellement en radio. C'est-à-dire que, tu vois, il n'y a pas une scène, il n'y a pas un Marc Bolan en France, il n'y a pas des mecs comme ça. Donc on a une dichotomie là, si tu veux. On sait, les groupes savent déjà que c'est un système, qu'il y a du pognon, etc. En France, les punks, c'est au moment où on crée tout. Enfin, on crée tout. Voilà. Donc, c'est compliqué les parallèles de Poyon et tout ça.
Et après ça, aux autres, bien sûr. Et on peut développer ça cet après-midi. Hein. Mais là-dessus, point de vue le pognon et tout ce bordel-là, c'est aussi une notion anglo-saxonne, latine, du pognon et de la honte du pognon et tout ça qui entre là-dedans aussi. Une psychologie là-dedans. John Lydon, ok, il y avait le côté est-ce qu'il s'est vendu ou pas avec Sex Pistols et après ça, pile. Pour lui, je suis certain que ça n'a jamais vraiment entré en considération. Malcolm McLaren, Vivian Westwood, étaient ravis de pouvoir réussir. Et tant mieux, parce qu'en réussissant, ça a influencé le monde entier. S'ils auraient resté juste à Londres ou jusqu'à Chelsea, qui était quand même huppé, jusqu'au fin fond de Chelsea, ça aurait été arrêté là, nous ne serons pas là aujourd'hui. Donc c'est aussi ça, d'essayer de voir ça. Parce que moi, je suis complètement pour les indépendants, ça va de soi. Et c'est eux qui développent les nouvelles tendances, les groupes, etc. Mais dans le fond, il faut regarder l'attaque plus vicieuse et plus difficile et plus anarchique, quelque part, c'est attaquer la grosse bête de l'intérieur. Donc c'est juste ça que je voulais relever, que par exemple Manu Negra, que je connaissais bien à l'époque, malheureusement j'ai entendu partir de la bouche de Manu Chai, on ne sera jamais chez les majeurs. Et je me suis dit, oh secours, putain, il s'est tué. Et en effet, quand il a signé chez Virgin, tous ses fans ont dit, oh putain, vendu. Il n'aurait pas dû dire au début, il aurait dû dire, nous on va pourrir le système, de l'intérieur, comme les Clash l'ont fait. Et tout le monde était honnête là-dessus, là-bas. Et tout le monde ici était les artistes, on ne peut pas se pourrir. Le peintre ne peut pas gagner de l'argent avant sa mort. Enfin, tout ce bordel-là. Donc c'est ça aussi que je mets en question, que peut-être on peut aider ici, qu'on ait commencé à se demander des questions là-dessus. OK ? Donc.
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre communication. Elles étaient super chouettes. J'ai une question surtout pour Simon. Du coup... Si la réussite c'est lié avec l'acquisition d'un capital symbolique dans le milieu du punk, est-ce que à travers le temps ces modalités, ces formes de capital symbolique ont pu changer? Et si oui, en fait, comment?
Alors moi je reviens sur ta remarque. Donc effectivement, oui, je pense tout à fait qu'il y a une cassure à la fin des années 70 du fait des pratiques. Mais vous venez de le dire dans la discussion, en France, il n'y a pas une infrastructure de label indépendant. À ce moment-là, il y a quelques exceptions. On peut chercher Melody Massacre, Sky Dog, mais qui ne produisent pas énormément de choses et qui eux-mêmes font pas mal d'imports encore à l'époque. Et les industries principales, si elles font de l'argent, c'est aussi principalement avec les imports en France. Donc effectivement, sur le rock francophone, et encore plus pour le punk, il n'y a pas de chat. Et puis c'est seulement à partir des années 80 où là, par contre, il y aura vraiment une logique du refus. C'est à la fois une logique du refus des majors, parce que si on parcourt vraiment la grande majorité de ceux qui sont reconnus dans cette scène alternative, y compris ceux qui vont faire des ventes, ils vont tout le temps rester sur ces labels indépendants, contrairement à ce qui se passait à l'année 70. Mais c'est d'une part d'une fait de la volonté, mais aussi des majors qui vont se détourner de ces groupes-là après avoir tenté de les reproduire et Alors fait la plupart du temps des flops, sauf avec Plastic Bertrand. Après, sur la question de l'entraide, avec le début de la jalousie, ça, j'ai moins regardé, mais ça, effectivement, ça peut être intéressant de voir quelles sont les pratiques entre les groupes pour savoir à quel point il y a une, ça change là-dessus. Ça peut être intéressant à creuser. Ouais.
Parmi tout cet aspect un petit peu subjectif et changeant des marqueurs de la réussite à l'intérieur même du punk, quelque chose qui est censé être définitif et simple comme le nombre de ventes et les tirages. Or, que signifie, par exemple, tirer un disque punk? Je parlais par exemple des groupes K.O. Productions, c'est un bon exemple, une compile comme K.O. en France ou autre, à 6000 exemplaires en 1985. Bon, c'est évidemment pas un disque d'or ou une super production d'un groupe pop ou de ce que fait Michael Jackson à l'époque. Qu'est-ce que c'est par rapport à un tirage de 2005, 2017? Ben, en fait, c'est énorme. C'est énorme à l'intérieur de ce mouvement. Aujourd'hui, je ne connais pas énormément de groupes punk français, plus ou moins encore libres et underground, qui tirent à 6000. Là, je parle de toute une génération de vinyles qui sont sortis entre 82 et 88. Voilà. Rien que ça, qui est pourtant censé être une espèce de marqueur simple et évident, c'est évanescent à l'intérieur même du mouvement concerné et même à l'intérieur de l'histoire d'un groupe. J'ai eu l'occasion de parler avec certains membres de groupes à gros tirage, connus depuis plusieurs décennies. Leur succès en termes quantifiables, si ça se quantifie uniquement sous ce jour-là, n'aurait rien à voir en 79, 81, 85, 95, 2005, 2015, etc. Est-ce que ça change pourtant au degré de réussite ou en tout cas d'installation du groupe dans la scène? Je ne sais pas, Taïlu qui ici présent pourrait peut-être donner quelques indications sur cet aspect purement numérique du tirage. Mais je pense que là déjà, on a une complexité de la question qui nuance même ce type de marqueur censé être orthodoxe, partagé, et ce qui déjà est différencié de manière intrinsèque peut encore plus difficilement, à mon avis, être confronté avec des scènes extérieures et des réflexions exogènes aux problèmes qui nous occupent. Voilà. Quant à ce que disait Luc pour Camera Silence, oui, il y a eu une métamorphose musicale très importante, mais en fait, est-ce que de la œil initiale au teinté de street punk, à la soul œcuménique, tout aussi œil et teinté de street punk, il y a eu une remodélisation si importante et un changement d'esprit de Camera Silence entre 1984 et 1987, puisque ce sont les dates des deux sorties des groupes, des disques pardon, respectifs qui consacrent ces deux moments musicaux. Il y a aussi là un autre paradoxe, c'est qu'il peut y avoir une continuité, y compris finalement dans le son, entre ces deux modèles, on va dire, successifs, par lesquels un artiste peut se renouveler tout en restant finalement lui-même. Mais ça, c'était une simple remarque à ta remarque.
Voilà. Et je rebondis, je m'excuse, j'en ai pour trois secondes sur ce que tu disais. Cet étalon, la mesure là, des ventes de disques, il faudrait voir aussi ce que ça donne aujourd'hui avec Internet, les clics, etc., le nombre de fois où un groupe est vu ou pas vu. C'est-à-dire qu'on peut, voilà, on peut aussi aller dans ce sens-là avec des nouvelles manières d'être vu, d'être finalement célèbre tout en étant underground, et puis ce que ça implique finalement. Bon.
Sur les modalités d'acquisition du capital symbolique, je pense que ça change pas. C'est effectivement la question de l'intégrité, l'intégrité éthique entre des valeurs portées par un milieu politique et sa capacité à agir en fonction. Sur ce que disait Christian sur le succès de Green Day, par exemple. En fait, par rapport à mon terrain, ce qui est assez rigolo, c'est que la première génération est effectivement bien plus issue de l'influence de Crass, de la narcopunk, etc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un renouvellement générationnel, et ça, c'est les jeux dialectiques entre mainstream et underground, qui se passent effectivement avec la génération de 94. C'est-à-dire que le succès de Green Day fait que plein de jeunes se retrouvent à écouter du punk à un moment, un punk rock relativement mélodique, assez pop, etc. Mais qui leur donne accès par ailleurs ensuite à tout un autre univers qu'ils ne maîtrisaient pas avant. Et là-dedans, il y a effectivement des gens qui vont juste être de passage, et des gens qui vont s'inscrire aussi, intégrer les codes de ces milieux politiques, etc. Voilà, et qui vont même dans les sous-scènes aller d'un côté ou de l'autre, si tu veux, entre par exemple les gens qui vont aller du côté de Maloca à Dijon avec plutôt le côté punk français, antifasciste, etc. Et puis plutôt du côté Stone Age, Bad Cards, etc. Et donc ce qui va donner les mots punk français à ce moment-là. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même une espèce de communauté originaire pour cette génération-là qui est effectivement Green Day, quoi. De la même manière que la génération d'après qui va être la mienne, c'est Blink 182. Tu vois. J'ai pas honte de dire que je suis arrivé au punk par Blink 182. Parce que j'étais au collège, on écoutait le live de Blink 182 assis dans les marches sur un Discman tout pourri qu'on avait trouvé dans la rue, tu vois. Et pour autant, après, c'est la façon dont les personnes, il y a une brisure de sens quelque part, je pense, quand t'écoutes ton premier disque de punk. Et ça, c'est un truc qui est transgénérationnel. La première fois que t'écoutes un disque, tu te dis qu'est-ce qui se passe dans ma tête, c'est quoi ce truc, quoi. Et puis après, tu creuses, quoi. Après, tu creuses, tu fouilles, tu recherches, et puis tu deviens un peu spécialisé de ton truc. Ce qui va être plus intéressant sur la question de la réussite à partir de Green Day, par exemple, c'est le cas de quelques groupes français, notamment comme Burning Heads ou Uncommon from Mars, qui vont pour le coup, dans une période un petit peu anachronique dans l'histoire du punk, vont se trouver à avoir un succès relatif, alors que c'est... et c'est des groupes qui vont durer aussi, qui vont persévérer, et qui jouent encore, enfin pas pour Uncommon from Mars, mais un groupe comme Burning Heads joue encore, quoi. Alors, ça, c'est intéressant, tu vois, en termes de...
De Bourges, où ils ont eu le fer, hein, un des dos, ce qui est une marque de réussite, faut le dire, sur la manière dont on peut institutionnaliser la musique en France. Voilà. Alors, tout début. Hein.
Alors, si je peux me permettre, effectivement, il y a des groupes, des artistes, je revendique encore mon état de peintre, désolé, mais il y a des artistes qui vont beaucoup plus loin que d'autres. D'accord ? En France ou à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, peu importe le pays, et qui ont un peu plus perduré. Moi, tout petit, les Stranglers, XTC, qui n'étaient pas vraiment punk, mais bon, j'étais un fan de XTC, Stranglers, tout ça. Et en France, il y a des groupes qui ont perduré parce qu'ils étaient déjà amoureux de leur musique, et puis on a été amoureux de leur musique. Il y a des groupes punk comme les Ludwig, le 2088, c'était tout pourri, quoi, mine de rien, si tu regardes, t'écoutes bien aujourd'hui, et ils reviennent, on les a revus. Mais il y a des groupes qui, moi j'ai été programmateur de la migratrie, le squad de la migratrie à Ménilmontant, où j'ai vu, je sais pas, 10 000, 15 000 groupes, pas que de l'étranger, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, mais français, et que les gens, les musiciens, étaient amoureux, ils s'en foutaient de vendre combien de disques. Et d'être riche, ils s'en foutaient totalement. Toi, les Brigitte Bop, les trois gnomes, les mecs, ils avaient chacun avait un travail à part entière, tout ça. Ils s'en foutaient. Toi, franchement. Et le but, c'est que la salle était remplie et que le public était joyeux. Mmh. Voilà. Et puis l'entrée était à 5€. Les mecs, ils gagnaient même pas 30€ par soirée, même pas 5€. Ils avaient une barquette de... Qu'on appelle ça encore. Taboulé, dans les backstage, toi, ils s'en foutaient, ils étaient top contents. Le but, il est là. Ça, c'est punk.
Juste sur le moment Green Day dont parlait Simon, et là, c'est peut-être aussi une manière dont la réussite perçue par les autres peut être perçue diversement. J'étais déjà dans cette scène lorsque ce type de groupe ont émergé, ont eu un grand succès, et il y avait une expression assez en vogue chez les artistes punk à ce moment-là qui était « on ne va quand même pas faire du Green Day ». Et ce n'était pas, à mon avis, par jalousie ou même par réprobation quant à la réussite commercial et au fait qu'on les trouvait dans des stations-service, ce que finalement le jour où soi-même on trouve ses disques dans une station-service, on est tout à fait heureux de se voir dans cette image de réflexivité narcissiquement très importante. Non, c'était parce qu'on sentait qu'il y avait une forme d'édulcoration psychédélico-skateuse qui ne rentrait pas forcément dans notre vision de, je sais pas comment dire, de l'authenticité du trip et de la substance du punk. Donc ce qui peut être perçu comme une réussite ou comme un échec peut également devenir Oresco référence pour d'autres raisons.
Voilà. Oui, donc rapidement, j'adore toutes les interventions, l'idée de réussite par non-réussite, réussite
perçus. Et je voulais, oui, adresser cette histoire des différents groupes, les petits groupes qui s'en foutent d'être découverts. Moi, j'avais un petit groupe aussi, mais je n'étais pas une musicienne professionnelle. Donc, moi, je dirais que beaucoup de groupes qui passent dans les scènes, dans les squats, ne sont pas, ils n'ont pas cette fureur de créer et de progresser dans la durée non plus. Donc, je pense que ceux qui réellement ont cette besoin de s'exprimer, tôt ou tard, ils vont frôler un certain succès ou notoriété. Et puis, on ne peut pas dire non plus qu'ils ne sont pas légitimes. Bah, c'est mon opinion.
Je vais rapidement faire deux, trois mots conclusifs en rebondissant sur ce que tu disais, Simon. Moi, c'est Offspring. C'est, je crois, à Noël, j'ai dû recevoir un best-of de U2 et de Offspring. Et après coup, dans ce que tu disais, moi, je pense que des fois, la sérendipité a du bon, c'est-à-dire qu'on reçoit ce genre de choses, on se dit « waouh, c'est nouveau ». Après, peut-être, on s'intéresse au visuel, on essaye de connecter, c'est comme ça que Offspring, le punk, les New York Dolls, Body Delay, et après, on y va, quoi. On est attiré par le bruit, et par le bruit différent, et on se finit par écouter ce que écoute Christophe. Je ne sais pas si c'est bien. Et moi... Je terminerai là-dessus. J'ai distingué quelques axes de réussite du punk. Est-ce que réussir dans le punk, c'est s'amuser, se faire plaisir d'abord ? Est-ce que c'est réussir à se structurer, à diffuser ou en tout cas à se faire entendre plus ou moins à son niveau, que ce soit dans le DIY ou autre chose ? Ou est-ce que c'est gagner du pognon, toucher de l'argent et... peut-être se vendre. On en rediscutera pendant tout l'après-midi. Voilà, on se retrouve à 14h.